va pouvoir commencer. Peut-être que quelques autres nous rejoindront. Merci d'être là ce soir. Bienvenue à toutes et à tous pour cette soirée publique dans le cadre de la chaire Jean Rodin. Peut-être tu peux baisser un tout petit peu le micro. Donc, bienvenue. Je suis le père Grégoire Cata, jésuite, enseignant dans cette maison, et puis titulaire depuis quelques années de la chaire Jean Rodin. J'enseigne la théologie morale sociale, la doctrine sociale de l'Église ici. Et puis, dans une autre partie de ma vie, je travaille à la conférence des évêques. Voilà, je crois que Guy est... C'est là où on se voit. Qu'est-ce que la chaire Jean Rodin, pour rappeler ce qui nous réunit ce soir? Elle porte le nom de Monseigneur Rodin, qui a fondé le Secours catholique. De son vivant, Monseigneur Rodin a cherché à promouvoir l'étude de la théologie de la charité, en pensant que se tenait là la clé fondamentale pour aussi une pratique de la charité qui soit plus généreuse et plus ordonnée. Et donc déjà, de son vivant, il a embauché un certain nombre de théologiens, dont l'abbé Jean Colson, une figure emblématique, pour réfléchir et travailler cette question. Il avait créé un service, une bibliothèque, une collection. Et quelques temps après sa mort, en 1977, certains de ses amis ont créé la Fondation Jean Rodin pour continuer à porter cette préoccupation d'un travail, on va dire, un peu plus scientifique sur la charité. Cette Fondation Jean Rodin organise, dont on a la présence aujourd'hui de Christine Gilbert qui est avec nous, et puis Alain Thomassin qui est à la fois prof ici et aussi au conseil d'administration, au bureau de la Fondation. Donc la Fondation Jean Rodin organise tous les deux ans un colloque rassemblant des chercheurs et des praticiens, et elle a créé une chaire d'études dans différentes facultés de théologie en France. Et la Fondation a aussi lancé le site Servons la Fraternité dans les Landes du Rassemblement Diaconia à Lourdes, il y a quelques années. Un site de partage de paroles et d'expériences qui fait notamment résonner la voix des personnes fragiles ou en grande précarité. Ici, au Centre Sèvres, la chaire Jean Rodin répond donc à l'invitation de Monseigneur Rodin de promouvoir une réflexion théologique, grosso modo autour de deux grands moyens. D'abord, des cours et des séminaires qui sont identifiés chaire Jean Rodin, et notamment, je signale les deux séminaires de recherche qu'on a cette année dans cet axe-là. Un séminaire intitulé « Au cœur du malheur, la lumière, peut-on affirmer philosophiquement et théologiquement que le malheur est un lieu de salut ?» Donc c'est un titre à rallonge, mais le creux du creux de ce séminaire, c'est assez simple, c'est se mettre à l'écoute de récits de personnes pauvres ou en précarité, et à partir de l'analyse de ces récits, d'en tirer des éléments pour mieux comprendre au niveau théologique ce qu'est le salut, ce que ça veut dire d'être sauvé. Voilà. Donc c'est toute une démarche. Le séminaire a commencé cette année et va s'étendre sur deux ans, Étienne, deux ou trois ans. Voilà. Mais il y a déjà eu des expériences du même type qui ont été menées il y a quelques années, autour de la question de l'espérance notamment. Et le second séminaire de recherche ici porte sur le lien entre clameur de la terre et clameur des pauvres, vous savez, l'interpellation de Laudato Si qui nous invite à écouter tant la clameur des pauvres que la clameur de la terre. Là, c'est un séminaire joint, lieu de recherche avec le CERAS, voilà, dans lequel je suis un petit peu plus impliqué. Et puis, donc ça, c'est le premier type d'activité de la chaire Jean Rodin. Puis un autre type, c'est d'organiser une fois par an, comme ce soir, une soirée publique où à chaque fois, on prend un thème et on essaye d'y porter en lien avec la thématique de la Fondation, avec la thématique de la charité, d'y porter un regard de foi et de se mettre à l'écoute. Et puis que ce soit aussi, ces soirées sont des lieux aussi à la fois de type conférence, mais type aussi, vous verrez, comme dans la deuxième partie de notre rencontre, on aura largement le temps aussi d'échanger. En fait, voilà. Il y a une dimension que les participants qui viennent écouter entendent des témoignages, des réflexions, et puissent apporter leur contribution. Cette année, donc, nous avons choisi de faire porter la soirée sur le thème des jeunes. Plusieurs raisons à cela. D'abord, vous êtes certainement sans savoir que nous avons vécu le mois dernier à Rome un synode des évêques sur ce thème. Ce thème, c'était les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. un moment fort de toute une démarche synodale qui a commencé il y a plusieurs années et qui est appelée à se poursuivre maintenant que l'assemblée synodale est terminée par un processus de réception au niveau local. Je ferai un peu allusion dans mon intervention un peu plus tard au document final du synode, qui est pas encore paru en français, mais qui est quand même disponible, et puis on peut réussir à le traduire maintenant avec les miracles des traducteurs automatiques, quoi, donc ça m'a bien aidé. Voilà. Autre raison de faire porter la soirée sur les jeunes, c'est une enquête qui a été lancée il y a quelque temps par la Fondation Jean Rodin sur les jeunes et l'engagement. Et donc, on va évoquer cette enquête ce soir. Le thème, évidemment, c'est de se dire, quand on affirme les jeunes ne s'engagent plus, tout le monde sait bien que c'est faux, il faut le redire. Mais c'est intéressant de s'interroger sur les nouveaux visages que prennent ces engagements solidaires. Et l'objectif de la soirée, c'est de réfléchir, de débattre, d'échanger un peu là-dessus, en se mettant à l'écoute de cette réalité et en y portant un regard de foi. Donc pour cela, nous commencerons par écouter deux témoignages. Je vais un peu interroger Axel et Lucie, que je remercie beaucoup d'avoir accepté de venir ce soir, et qui sont du réseau Young Caritas du Secours catholique, voilà, qui nous partageront un petit peu ce qui les anime, pourquoi elles sont engagées au Secours catholique, le type d'activité qu'elles font, puis en quoi ça les nourrit et ça les anime. Et puis après, dans un deuxième temps, nous écouterons donc Jean-Luc Poutier, qui est tout à ma gauche, journaliste, historien, professeur dans cette maison, animateur des mardis d'éthique publique, le premier mardi du mois, ici. Et donc, il nous partagera quelques éléments d'analyse à partir de cette enquête de la Fondation Jean Rodin et puis de quelques autres éléments aussi. Et puis, je prendrai la parole pour terminer en offrant quelques échos théologiques. Et dans une seconde partie, donc, nous aurons un bon moment pour entrer en discussion, éventuellement entendre vos témoignages aussi ou vos perceptions de cette réalité et toujours vos réactions, poser vos questions aussi, hein, à nous quatre, et puis toujours en maintenant cette logique qui est la logique de la soirée de la chaire Jean Rodin, c'est de se mettre à l'écoute d'une réalité en lien avec la question de la charité, de la solidarité, se mettre à l'écoute d'une réalité pour aussi y porter et discerner des éléments de foi. Donc tout de suite, je vais donner la parole à nos deux témoins, et pour qu'elles nous présentent un petit peu d'abord qui elles sont et ce qui les a amenées à s'engager de manière un engagement solidaire, quoi, on peut dire, donc dans différentes activités du Secours catholique. Alors peut-être on peut commencer par Axel, voilà, qui nous vient d'Épinal dans les Vosges. Et donc, voilà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu en es arrivé à être, je crois que c'est d'abord bénévole,
c'est ça, oui,
membre de Young Caritas, et puis maintenant tu es en service civique. Raconte-nous, ouais, un petit peu ça.
Vous m'entendez bien? Je ne sais pas. Il y a à peu près un an, j'ai intégré l'équipe Young Caritas, donc l'équipe jeune du Secours catholique, que j'ai connue en fait via des événements Facebook. Voilà, je voyais leurs actions. Et
tu faisais quoi à ce moment-là? Tu étais étudiante?
Oui. Ouais, j'étais en première année de licence de psychologie. Et donc, en fait, tout de suite, ils m'ont accueilli en me disant « Mais tu peux aussi être bénévole ponctuellement, même si tu n'es pas sur notre... » À l'époque, donc, j'étais pas sur la même ville que cette équipe Young Caritas. Et ils m'ont proposé tout de suite de venir les rejoindre, même ponctuellement. Et en fait, ce que j'aimais bien dans cette équipe, c'était que chacun était force de proposition, en fait. On se réunissait et chacun, on se partageait... Quelles compétences on avait, quelles envies on avait, peut-être quel public en précarité on avait remarqué et voilà, quelle cause nous indignait et pour quelle cause on avait envie de se battre un peu. Et donc on se partageait tout ça et ensuite on montait ensemble nos projets et puis on allait agir. Et donc, entre-temps, j'ai demandé une année de césure dans ma fac pour pouvoir prendre un peu de recul sur mes études. Et donc, c'était l'occasion pour moi de faire un service civique au Secours catholique.
En quoi consiste ce
service civique? Mes missions sont autour de la thématique jeune. Donc à Épinal, dans la ville où je suis, dans les Vosges, il y a des ateliers d'insertion. Donc en gros, le Secours catholique finance des ateliers qui accueillent des jeunes qui ont été coupés de la société d'une manière ou d'une autre, soit parce qu'ils ont été incarcérés, soit parce qu'ils vivaient dans la rue. Et donc en fait, c'est des ateliers où, par exemple, ils vont apprendre à cuisiner, à faire de la menuiserie, pardon. Ils font un tas de choses. Et mon rôle, c'est un peu de leur montrer qu'ils peuvent participer à des activités culturelles ou sportives à moindre coût et qu'ils peuvent en fait s'intégrer, qu'ils peuvent aussi devenir bénévoles au Secours catholique. Et voilà, ensemble, on monte aussi un petit projet de théâtre en ce moment où les jeunes en fait font des exercices pour apprendre la confiance en soi, pour prendre la confiance en l'autre aussi, qui c'est souvent deux choses très compliquées pour eux. Pour moi aussi, je l'avoue, ça m'apprend beaucoup de choses, cet atelier. Et donc voilà, le but, ce serait que les jeunes puissent s'exprimer à la fin de l'année d'une façon ou d'une autre, en fait, que ce soit, soit par le théâtre, par le chant, par la danse, par la vidéo, ou même en constituant les décors, s'ils ont envie. Donc voilà. Et à côté de ça, je dois dynamiser l'équipe Young Caritas. Mais en fait, ce que je disais tout à l'heure, elle est déjà très dynamique. Il y a un groupe de 10 jeunes qui est là depuis longtemps. Et autour d'eux gravitent des gens qui sont là ponctuellement, soit parce qu'ils ne sont pas sur la même ville que nous, soit parce qu'ils voilà, viennent pour les actions qui les intéressent vraiment.
Alors, qu'est-ce que vous faites comme action en tant qu'équipe Young Caritas?
L'action qu'on fait le plus souvent, c'est des ciné-débats. En fait, on réfléchit ensemble aux films qu'on va projeter. Donc, depuis cette année, on a un dispositif proposé par le siège du Secours catholique en partenariat avec les Lucioles du Doc. Donc, en gros, ils nous ont fourni un catalogue où les films sont classés par thème. Et donc, on s'est demandé voilà, quel film on avait envie de projeter cette année. Et c'est des films documentaires. Et en général, voilà, on invite tous les jeunes de la ville et... on est en général à peu près 30. On diffuse le film, ensuite on fait un petit débat et on a des intervenants. En général, on essaie d'inviter des gens qui peuvent répondre aussi à nos questions. Et donc voilà, ça permet de parler d'un thème d'actualité. À chaque fois, on réexplique aussi qui on est, Young Caritas, et on explique bien aux gens que voilà, si le thème les intéresse. Donc par exemple, le thème du précédent film, c'était un film qui parlait de l'écologie et plus précisément des jardins partagés. Voilà, à chaque fois on dit aux gens si ça vous intéresse, sachez que le Secours catholique fait ça aussi, a des jardins partagés ou alors mène des actions qui sont en lien avec l'écologie. Et en fait, c'est ça aussi qui est bien avec le Secours catholique, c'est qu'ils font tellement d'actions qu'il y en a un peu pour tout le monde, j'ai envie de dire. Et donc voilà, ça c'est un événement qu'on fait une fois par mois. Après, on a récemment, c'était le week-end dernier, on a organisé une soupe solidaire. Où on récupère des légumes invendus chez les primeurs de notre ville. Et donc là, on se rend compte que voilà, on avait 90 kilos de légumes. Et donc tout ça aurait été jeté. Et on a réussi à transformer ces légumes en soupe. Et on les a vendus au profit du Secours catholique. Ça tombait le jour de la campagne nationale du Secours catholique. Voilà.
Non. Tu me parlais d'une action que vous avez faite avec les familles de migrants
pour
permettre de visiter la ville.
Exact, oui. En fait, on s'est inspiré d'un jeu de piste qui existait à l'office du tourisme en fait, de notre ville. Et on a organisé un jeu de piste avec des familles migrantes. Donc en fait, on s'est mélangé à eux et ça nous a permis de visiter la ville. C'est un peu prétexte à discuter. Et voilà, à la fin, c'était assez convivial parce que chacun a ramené une tradition de son pays et on a pique-niqué ensemble. C'est un super bon moment et je crois que tous, on a un peu gardé des contacts avec ces familles-là.
Merci. Je vais revenir vers toi après, mais on va donner la parole à Lucie pour que tu nous dises toi aussi qui tu es et comment tu en es venue à t'engager. Donc, tu es bénévole au Secours catholique à Versailles ou à Viroflay.
À Versailles.
Et puis, tu as été aussi pendant quelques temps stagiaire même au Secours catholique, mais avant, tu étais déjà bénévole. Donc, raconte-nous un petit peu comment tu en es arrivé à être bénévole.
D'accord.
Et puis, les différentes activités significatives que tu as faites dans ce
cas. Donc, le bénévolat, pour moi, ça a été un peu... Vous m'entendez déjà? C'est bon? Ok. Le bénévolat, pour moi, ça a été un peu... J'ai toujours voulu aider les autres, en fait. Que ce soit dans mes études, j'ai fait du droit, puis des sciences politiques. Et du coup, j'ai voulu m'engager dans une association. J'ai voulu faire un stage dans une association pendant l'été. Et la seule association qui m'a répondu, ça a été le Secours catholique, pour me dire, nous, on vous propose un bénévolat. J'ai dit, bon, allez, c'est parti. Donc, je me suis retrouvée en juin 2017, bénévole à la délégation des Yvelines à Versailles, où j'ai eu plusieurs missions. Je me suis occupée de ce qu'on appelle la solidarité familiale, et notamment l'accueil familial de vacances. Je ne sais pas si ça parle à certains. Où des enfants sont envoyés en vacances 10 jours, 15 jours, dans une famille bénévole, que ce soit sur leur lieu de résidence ou sur leur lieu de vacances. Et j'étais aussi en soutien de l'animateur Young Caritas pour préparer l'immersion de partenaires internationaux dans le cadre de l'université d'été, Young Caritas, qui se passe à Saint-Malo, mais qui se passe aussi dans les délégations. Et on a accueilli 4 Brésiliens. Donc il a fallu préparer le programme en accord avec eux, il a fallu mobiliser les Young Caritas des Yvelines, et ça n'a pas été une chose facile. Leur trouver un hébergement, s'occuper de la logistique, c'était un gros boulot. Donc en 3 mois, on n'a pas chômé à 2. Et finalement, on les a accueillis, ça s'est super bien passé. Et on a fini à Saint-Malo, on a participé à l'université d'été, qui était sur l'interculturel et l'interreligieux. Et ensuite, j'ai repris mes études, j'ai fini mon Master 2. Et j'avais un stage de fin d'études à faire, et je voulais le faire dans une association, forcément, pour continuer mon cheminement. Et l'animateur avec qui j'ai travaillé m'a mise en contact avec une personne que je connaissais déjà un petit peu au Secours catholique, qui s'occupe des partenaires internationaux pour l'université d'été, qui m'a fait passer un entretien, et j'ai été recrutée comme stagiaire, donc de mi-mars à mi-septembre, donc ça date pas de longtemps. Et durant ce stage de 6 mois, j'ai pu m'occuper de tout ce qui avait trait à la venue des jeunes internationaux. On a fait venir 14 jeunes du monde entier. Pour vous donner quelques exemples de pays, on a eu 2 jeunes d'Indonésie, on a eu 2 jeunes d'Amazonie péruvienne, donc dans le nord du Pérou. On a eu 2 jeunes de Madagascar, 2 jeunes de République démocratique du Congo, du Kivu, précisément. Et je peux continuer comme ça longtemps. Donc mon rôle à moi, ça a été de m'occuper de préparer leurs demandes de visa, les billets d'avion, l'hébergement, tout ce qui était logistique, de dialoguer avec eux et avec les délégations d'accueil, en accord avec ma maître de stage aussi forcément. Et aussi d'apporter de l'aide quand il fallait, que ce soit pendant les immersions en délégation ou à Saint-Malo directement. Et ça a été le cas, parce que pour les Péruviens, c'était assez compliqué de dialoguer. Et pendant 4 jours, je suis restée avec eux et j'ai traduit français, espagnol, français.
Et puis maintenant, tu es, tu disais, dans ton équipe Young Caritas, qui est plus petite que celle d'Axel. Donc, dis-nous un petit peu qui vous êtes et puis ce que vous faites.
D'accord. Donc, l'équipe Young Caritas des Yvelines, elle est beaucoup plus petite que celle des finales. On est quelques jeunes, ça se compte sur les doigts d'une main, à être vraiment actifs. Et la seule activité qu'on a, c'est une activité où on fait des activités ludiques avec des enfants d'un hôtel social. Donc, ce sont des enfants qui sont de familles réfugiées, qui sont logés dans un hôtel social du 115 et dont les parents parlent pas forcément français, donc ils ont un gros poids sur les épaules aussi parce qu'ils doivent traduire pour leurs parents. Et donc nous, on fait des jeux avec eux, on les emmène des fois, il y a la base de loisirs de Saint-Quentin qui est pas très loin. Donc on les emmène quand il fait beau, on fait des jeux, on fait des activités manuelles, on fait plein de choses comme ça. Et la prochaine, c'est demain après-midi et j'y serai.
Alors on peut rebondir pour toutes les deux, mais peut-être on peut commencer par toi, Lucie, puisque tu viens de parler de cette activité. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce qui t'anime quand tu t'engages de cette manière-là, d'aller passer ton samedi après-midi avec ces enfants de l'hôtel social, ou comme tu disais au début, moi j'ai toujours voulu aider d'autres, mais finalement, qu'est-ce qui te pousse, qu'est-ce qui t'anime pour faire ça, et puis qu'est-ce que tu en reçois? Est-ce que tu peux pointer quelques éléments qui font que... Si tu le fais, c'est quand même parce que tu y trouves quelque chose.
Oui, c'est vrai. Même si ce n'est pas forcément compréhensible par tout le monde. Enfin, dans ma famille, il y a eu un grand mouvement, surtout mes parents qui m'ont dit « Mais Lucie, mais pourquoi tu fais ça? Mais de toute façon, tu n'en retires rien. » Et non, c'est faux. C'est vraiment faux. Et
Ce qui me motive déjà à m'engager, c'est que j'aime aider les autres, et particulièrement ceux qui en ont besoin. Donc les enfants, c'est des êtres vulnérables, on va dire quand même, parce qu'ils sont en construction. Et la situation qu'ils ont pu vivre au pavillon bleu, c'est pas facile. Ils ont dû fuir leur pays avec leurs parents, dans un pays où ils ne parlent pas forcément la langue. Se retrouver dans une école avec des enfants qui doivent se moquer d'eux parce qu'ils sont différents. Enfin bref, c'est compliqué pour eux. Et nous, on leur apporte quelque chose, même si c'est compliqué des fois de discuter avec eux parce que justement, ils ne parlent pas très bien français. Mais de voir que tout le monde est content, tout le monde s'amuse, tout le monde sourit, et qu'à la fin, ils nous disent « Vous revenez quand? Vous serez là la prochaine fois ?» Enfin, c'est génial. Et aussi, si je peux rajouter une chose, ça n'a pas trait aux activités, mais plus aux bénévoles. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur aussi. C'est que dans les bénévoles Young Caritas, en tout cas dans mon équipe, on a des jeunes qui sont accompagnés par le secours pour l'insertion professionnelle. Mais nous, en fait, le statut, on s'en fiche. On est bénévole, on est tous Young Caritas, qu'on soit aidé ou pas aidé par le secours, on s'en fiche. Et j'ai deux personnes en tête, ce sont devenus mes amis depuis l'été 2017. Ce sont des amis maintenant pour moi. Et je me fiche qu'ils soient aidés par le secours ou pas.
Relation. Alors, même question, Axel. Toi, qu'est-ce que tu dirais par rapport à, d'une part, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ce qui t'a motivé au début pour t'engager, ce qui continue à te motiver, à te donner envie, quoi, de faire ce que tu as à faire. Et puis, peut-être, dans un deuxième temps aussi, déjà, ce que tu peux dire de ce que tu reçois ou ce qui t'a enrichi avec cette expérience. Et puis, voilà. Tu as fait le choix de t'arrêter une année pour faire un service civique.
Comme je vous le disais, j'avais besoin de prendre du recul un peu sur ma vie. C'est vrai qu'on était, on est un peu tête baissée dans nos études, et finalement, je me rendais compte qu'il n'y avait plus trop de sens à ma vie. J'avais peut-être beaucoup changé pendant mon adolescence, et finalement, je ne savais plus trop qu'est-ce qui était important pour moi, quelles étaient mes valeurs, par exemple, et ça, c'est quand même important pour se projeter, et puis, du coup, pour choisir une orientation. Donc, je me suis dit, bon, allez. Arrête-toi une année. Et voilà, en trois petits mois, là, depuis que j'ai commencé, c'est déjà très, très riche, tout ce que ça m'apporte, ce service civique et puis mon bénévolat en général. Simplement, ça redonne un peu un sens à ma vie. Ça m'aide aussi à me connaître. J'avais des fois, je me demandais est-ce que... je me destine à travailler au contact des gens, et je me demandais est-ce que tu vas arriver à être au contact de ces personnes fragiles, et du coup, de vraiment le vivre, ça m'aide à voir quelles sont mes forces, quelles sont mes limites, sur quoi je dois travailler. Je sens que c'est vraiment ça, c'est vraiment le contact des gens qui fait sens dans ma vie. Et même si des fois, on se sent un petit peu impuissant, des fois compliqué d'aider des gens quand on les reçoit seulement une heure, on peut pas tout changer pour eux, mais parfois voilà, juste de savoir que peut-être ils ont passé un bon moment ou qu'ils ont pu se confier, ça refait ma journée, quoi. Je rentre chez moi et je suis contente d'avoir pu être un petit peu utile et d'avoir pu les aider un petit peu. Je pense particulièrement aussi à une expérience qu'on a vécue avec 10 jeunes au Bangladesh cet été, qui est une expérience très forte à laquelle je pense presque tous les jours. En fait, on est allé à la rencontre de Caritas Bangladesh, donc notre homologue au Bangladesh. Et en fait, ça a été un an de préparation où on a attendu de les rencontrer, où on s'est préparé... accessoirement financièrement, on a dû faire pas mal d'actions d'autofinancement pour préparer ça. Et puis aussi, c'était une grande préparation du groupe à l'interculturalité, à ce qu'on voulait voir là-bas, à ce qu'on voulait leur apporter, ce qu'on voulait leur demander aussi. Et donc, on est allé les rencontrer cet été. Et ça m'a fait prendre conscience aussi de l'importance du réseau dans lequel j'ai mis les pieds. Je me dis, c'est un réseau qui a un impact international. C'était très c'était très perturbant, quoi. Maintenant, quand je suis rentrée, ça a changé beaucoup de choses pour moi. que ce soit au niveau de mon mode de consommation ou même de la façon dont je vois le monde, dont je vois la pauvreté, la solidarité. Et donc voilà, aujourd'hui, j'ai très envie de continuer avec les Young Caritas, de sensibiliser les gens, pardon, sur ce qu'on a vu, sur ce qu'on a vécu, sur les projets de Caritas Bangladesh et sur leur fonctionnement.
Alors, dernier point qu'on pourrait aborder, c'est le lien entre cet engagement et puis éventuellement la foi. Alors, il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est... Alors, Lucie, tu me disais que toi, tu n'étais pas croyante.
Non, je ne suis pas croyante.
Et Axel, tu dis si, quand même, voilà, d'une certaine manière. Donc, ça fait deux positions distinctes. Mais peut-être commencer d'abord par les remarques que vous faisiez tout à l'heure. Le fait de dire « je travaille au Secours catholique », ça génère toujours des réactions. Alors, est-ce que vous pouvez nous témoigner un petit peu comment ça se passe? Et comment vous expliquer?
Nous-mêmes, je crois qu'on avait peut-être des appréhensions. Enfin, moi, par exemple, je me souviens qu'au-delà du fait qu'il y ait le nom catholique dans le nom, je me disais, moi, le Secours catholique, ça doit être un peu charité bien ordonnée. En fait, les riches aident les pauvres, et puis voilà, ça va que dans un sens, etc. En fait, je me rends compte que tous les bénévoles qui travaillent avec moi, c'était souvent des personnes qui ont été accueillies, on a tous nos fragilités, en fait. Tous les bénévoles, finalement... se mettent au niveau des personnes en précarité. Donc oui, j'ai déconstruit aussi mes préjugés à moi, mais c'est un travail de longue haleine que d'expliquer aux gens. Vous savez, le Secours catholique, c'est une association d'utilité publique, on accueille tout le monde et pas uniquement les catholiques. Ouais, c'est un peu... c'est un peu un frein, je pense, quand on va vers les jeunes... De dire on est le Secours catholique, donc des fois c'est presque plus simple de venir en tant que Young Caritas, même si...
Parce que Young Caritas, c'est un mot...
C'est ça, c'est plus...
C'est pas ce que ça veut dire. Il y a de l'anglais, il y a du latin.
Ouais.
Et Lucie, tu voulais dire?
Alors, dans ma famille, qui n'est pas croyante comme moi, puisque j'ai été élevée dans l'éducation la plus laïque possible... quand j'ai commencé mon engagement au Secours catholique, mes parents surtout m'ont très mal pris. Ils m'ont dit « Mais Lucie, où est-ce que tu as mis les pieds? Tu vas finir par te convertir au catholicisme. » Enfin bref, réaction assez négative, quoi. Mais je me suis très vite rendu compte que, ben non, c'était absolument pas ça. Enfin, si j'avais des questions sur la foi, je pouvais les poser, clairement. Et qu'on me répondait toujours avec bienveillance, même si c'était des questions que même moi je jugeais stupides. Mais ce que dit Axel, c'est vrai aussi pour moi. Enfin, il y avait beaucoup de préjugés que j'avais. Que, par exemple, la précarité, elle est financière et elle est uniquement financière. Eh bien, non, en fait. Absolument pas. Enfin, ça peut être de la précarité affective, la solitude. Ça peut être énormément de... Elle a énormément de facettes, en fait, cette précarité. Et des bénévoles qui ont été accueillis avant, j'en connais plein. Et j'ai un exemple qui me vient à l'esprit. Hein. Quelqu'un du Cèdre que tu as peut-être rencontré, Axel, qui est réfugié depuis 4 ans, 4-5 ans. Il vient de Guinée-Conakry, qui a passé beaucoup de temps dans la rue, qui a été aidé par le Secours catholique et il a aidé à s'en sortir. Maintenant, il a son statut de réfugié, il a un travail, il a une vie normale, entre guillemets. Et maintenant, il s'investit énormément pour les migrants, les réfugiés. Il fait énormément de choses, il est extrêmement actif. Et ce genre de profil, ça suscite l'admiration pour moi, en tout cas.
Axel, je reviens vers toi pour dire, alors toi tu viens d'une famille qui est croyante et puis certains très engagés dans l'église, parce que j'ai compris. Et toi, tu suis ton chemin, quoi. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire, du coup, entre ta recherche, tes attentes spirituelles et puis ce que tu vis de l'engagement solidaire, comment les deux s'articulent, se nourrissent
J'avoue que d'un côté, je me suis... pas mal éloignée des communautés d'église où je sentais un peu de moins en moins ma place, alors que j'ai un peu baigné dedans quand j'étais petite et après je me sentais plus spécialement à ma place à l'église, et pourtant paradoxalement j'ai toujours eu un grand besoin de spiritualité, je pense, qui aujourd'hui me manque quand même. J'ai pas continué en fait l'aumônerie étudiante, Donc après ma confirmation, j'ai perdu un peu ces groupes que j'avais et les jeunes avec qui je pouvais partager ma spiritualité. Et ça, j'avoue quand même que ça me manque. Après, aujourd'hui, maintenant que je suis bénévole au Secours catholique, je peux quand même en parler plus souvent et je me retrouve quand même dans les valeurs du catholicisme, mais en tout cas, j'ai pas choisi de faire un service civique au Secours catholique parce que c'était catholique, mais plus parce que j'étais en accord avec les valeurs qu'elle avait.
Merci beaucoup à toutes les deux. Donc, on aura l'occasion après de poursuivre la conversation. Mais je vais donner maintenant la parole à Jean-Luc, qui va pouvoir nous donner un petit écho de ce qu'il a lu, de ce qu'il a trouvé dans cette enquête de la Fondation Jean Rodin, et puis complétée par une autre enquête qu'on a reçue aussi du Secours catholique. L'enquête de la Fondation Jean Rodin est sur les jeunes en général et l'engagement, et l'enquête du Secours catholique est une enquête interne sur les bénévoles du Secours catholique. Donc, les bénévoles du Secours catholique ne sont pas tous jeunes, mais à certains moments de l'enquête, comme il y a des découpages par tranche d'âge, ça permet de sentir aussi ce qui se passe au niveau des jeunes. Voilà, Jean-Luc, je te laisse la parole.
Merci beaucoup. Effectivement, ces deux enquêtes m'ont été communiquées par Grégoire et Christine Gilbert, et la mission qui m'a été confiée, c'est fais-nous un commentaire de ces enquêtes. Alors, c'est un exercice un petit peu compliqué, pas tellement compliqué, mais exercice un peu ennuyeux, au sens que voilà, les enquêtes d'opinion, c'est aride. Et puis on s'aperçoit en les lisant, et quand on en a lu beaucoup, ce qui a été mon cas vu que les années ont passé, on repère très vite la façon dont les questions sont posées et induisent la réponse. Alors je ne veux pas faire ici du Pierre Bourdieu revisité, mais enfin bon, voilà, quand on lit les résultats de ces enquêtes, on n'est pas tellement surpris par les réponses qui sont apportées, encore que c'est parfois arrivé, et donc c'est la raison pour laquelle je me permettrai de mêler moi aussi un peu de témoignage personnel aux quelques éléments que j'ai trouvés et que je pense intéressant de noter dans les enquêtes dont il est question. Mon premier souvenir personnel, c'était il y a j'aurais d'ailleurs pu l'amener parce que j'ai gardé ce numéro, un numéro de l'Expansion, à l'époque où ça existait encore, donc il y a une quinzaine d'années, en grosses lettres dorées sur la une, il y avait écrit « Moi, je ». Hein, « Moi, je ». Et « Analyse d'une génération » ou « Étude d'une génération ». La génération « Moi, je ». Début des années 2000, c'était un thème qui était fréquemment agité. Hein, l'égoïsme de des générations qui arrivaient et qui étaient les enfants des 68ards, hein, parce que les jeunes qui ont eu 20 ans au début des années 2000, ils sont nés au début des années 70, donc c'était les enfants de 68ards. Et donc l'égoïsme était un thème à la mode. Et alors, par rapport à cela, les deux enquêtes citées apportent effectivement un déni par rapport à ce soupçon d'égoïsme, mais une bonne quinzaine d'années s'est écoulée en même temps. Et aujourd'hui, ces enquêtes montrent que il y a un souci au moins de s'informer sur ce qu'il est possible de faire pour être utile dans la société. Alors c'est le premier point que j'aborderai, la question de la motivation. Ce qui apparaît dans ces deux enquêtes et qui est intéressant, c'est la question du genre. Non, c'est pas absent des réponses qui sont données. Et puis, pour terminer, je pense que la question de l'enracinement chrétien est importante également. Et ça pourra justement nous permettre éventuellement d'en débattre. Alors, sur la motivation, d'abord, quand même, apparemment, un jeune sur deux, c'est considérable, 50%, s'est renseigné sur ce qu'est le service civique. Donc il y a là un souci. Alors ça, je peux apporter un témoignage complémentaire, c'est que professionnellement, j'ai fait pendant des années, et y compris dans la période récente, passer des entretiens oraux d'admission à Sciences Po, où j'enseigne également. Et au fil des années, il était très frappant de voir que la motivation qui était donnée... Alors, c'est évidemment induit aussi par les conseils qui sont donnés pour préparer ces entretiens, donc il faut relativiser. Hein. Mais les raisons pour lesquelles ces jeunes voulaient entrer là, dans le passé, ils voulaient tous être ou diplomates ou journalistes. Bon. Et au fil des années, on a vu l'humanitaire monter petit à petit. Et encore une fois, il faut faire la part d'un effet de mode ou de complaisance à l'égard du jury qui vous interroge. Mais malgré tout, il était très frappant de voir combien l'idée, à travers une formation générale, de pouvoir ensuite travailler dans le secteur humanitaire, a peu monté, a peu grandi dans l'esprit des jeunes qui étaient candidats à ces études. Bon, voilà. Ils étaient très peu nombreux à vouloir faire Sciences Po pour faire l'ENA et de plus en plus nombreux à vouloir travailler dans des organisations humanitaires. Le sondage montre ça bien. Donc il y a une volonté de savoir, d'une part, ce qu'il est possible de faire. Hein, les jeunes s'informent. Et ensuite, dans la motivation, alors ça c'est beaucoup plus banal, il s'agit d'être utile à la société. Alors c'est dans le sondage du Secours catholique, c'est 78%, et dans le sondage, alors bon, c'est quand même un peu différent, dans le sondage, mais le sondage du Secours catholique, c'est un sondage interne. Hein.
Voilà, c'est ça.
Ouais. Et dans le sondage de la Fondation Jean Rodin, c'est 43%. Enfin, c'est quand même ce qui vient en tête. Hein. Pourquoi vous voulez vous engager? Je veux m'engager pour être utile à la société. Et je pense que ça doit nous amener aussi à réfléchir sur le sens du mot engagement. Moi, j'appartiens à une génération où ceux qui étaient engagés dans les années 70, c'était des gens qui étaient engagés dans une formation politique. Que ce soit des groupes d'extrême gauche ou des partis plus importants. Mais enfin, l'engagement, c'était un engagement politique. Aujourd'hui, la question n'était pas posée, mais par connaissance d'autres enquêtes un peu similaires, cet engagement politique, il est mis à l'écart. Hein, ce n'est plus ce qui motive ces jeunes. En revanche, donc, l'engagement pour être utile à la société, et puis tout de suite derrière, pour éventuellement aider à remédier aux situations de précarité. Ça vient... Et également, alors vous l'avez évoqué, dans l'enquête du Secours catholique, 38% des sondés pour donner du sens à son quotidien. Quand on s'engageait dans un parti ou un groupe politique dans les années 70, on ne s'engageait pas pour donner du sens à son propre quotidien, mais c'est intéressant. Hein, on s'engageait pour transformer la société par l'action politique. Donc il y a une évolution qui permet de voir que l'altruisme interagit avec ce qu'on appelle habituellement une quête de sens personnel. Quoi. Mais donc la quête de sens personnel, c'est pas de l'égoïsme, puisque l'altruisme vient bien avant cette quête de sens personnel. Voilà. Donc les deux sondages coïncide sur la question de la motivation, même si les chiffres ne sont pas tout à fait les mêmes. Enfin bon, ça tient aussi au type de question qui est posée. Alors, deuxième point, le genre. Alors, il est quand même frappant de voir que il y a des écarts assez importants entre les réponses des hommes et des femmes aux questions qui sont posées sur les motivations de l'engagement. Et, par exemple, la volonté d'être utile, c'est 47% des jeunes femmes contre 39% des jeunes hommes. Hein. 8% d'écart sur un sondage comme ça, c'est quand même significatif. Et je crois que, alors je vais faire part aussi d'autres expériences personnelles, je crois que ça recoupe des tendances assez générales dans la société d'aujourd'hui. Moi, je vous donne deux points. L'un, toujours tiré de l'expérience de Sciences Po. Aujourd'hui, il existe à Sciences Po ce qu'on appelle l'école de droit. Et cette école de droit, elle a essentiellement pour fonction de préparer les jeunes à l'école de la magistrature et à l'école du barreau. Et pour l'école de la magistrature, il y a une surreprésentation féminine énorme. C'est plus des deux tiers de filles qui veulent préparer l'école de la magistrature. Et lorsque les questions sont posées dans le dialogue, c'est parce que c'est une fonction utile à la société. Et on ne voit pas le magistrat uniquement comme celui qui réprime, mais on voit aussi le magistrat comme celui qui va pouvoir aider ceux qui parfois sont en situation de difficulté par les divers moyens dont les magistrats peuvent disposer. Je donne un deuxième exemple, là, qui m'avait vraiment beaucoup frappé. J'ai enseigné pendant quelques années à l'Institut supérieur de formation de l'enseignement catholique, l'ISFEC, qui prépare des jeunes filles et des jeunes gens au concours de maître des écoles, donc d'instituteur, ou de certifié pour l'enseignement catholique privé sous contrat. Il y a 98% de filles. Ça veut dire que dans une dizaine d'années, il n'y aura plus d'instituteurs. Il n'y aura que des institutrices. Et ça m'avait suffisamment frappé pour que je discute avec elle. Alors, je ne pouvais pas demander aux garçons pourquoi ils n'étaient pas là, puisqu'ils n'étaient pas là. Mais aux filles, bah parce que il y a quand même un arrière-plan culturel. C'est pour ça que je parlais de questions de genre. Il y a un arrière-plan culturel. La vocation des femmes est quand même plutôt de s'occuper des enfants. Bon, je ne le prenais pas mal, mais ça faisait partie des réponses qui étaient données. Et puis l'autre raison, c'était que c'est une fonction qui est utile à la société. Et qu'aujourd'hui, enseigner dans le primaire, c'est utile. Donc on rejoint la motivation qui était donnée tout à l'heure, mais avec une assez forte disparité selon le genre. Alors, moi, je trouve qu'il y a là un... je ne sais pas, on pourra peut-être en reparler, dans votre bénévolat, vous côtoyez plutôt des garçons ou plutôt des filles, et comment ça se passe. Mais ce serait intéressant d'avoir votre témoignage, parce que ça illustrera ce qui apparaît dans ces sondages. Et puis, le troisième point que je voudrais aborder, parce que là, il est quand même très significatif, on l'a déjà évoqué, mais ça nous permet de rebondir, c'est la question de l'enracinement chrétien de cet engagement. Alors, chez les jeunes, ça n'apparaît plus. C'est-à-dire qu'on est à 3%. 3% de jeunes qui disent je m'engage dans un bénévolat, une action caritative, parce que je suis chrétien. Moi, ça m'a rappelé un souvenir d'enfance, adolescence, hein, je devais avoir de 12-13 ans, dans le collège des bons pères qui n'étaient pas jésuites, qui étaient maristes, nul n'est parfait où j'étais, on avait des soirées organisées pour rencontrer les parents. Donc, il y avait des groupes importants, hein, c'était de 60-70 personnes, et venaient ceux qu'on avait envie. Donc, il y avait les parents d'un côté, les élèves de l'autre, et on discutait. Bon. Et je me souviens d'un soir où il y a un parent d'élève qui nous a demandé « Est-ce que, quand vous êtes dans l'autobus, vous cédez votre place, si vous êtes assis, à une personne âgée qui monte dans l'autobus ?» Souvenir très précis de cela. Et on a tous répondu oui. À l'époque, on nous avait appris qu'il fallait céder sa place à une personne âgée dans l'autobus. Et on le faisait, vraiment. Bon. Et ce monsieur a dit, « Et pourquoi vous le faites ?» Et alors, là, on a répondu, « Parce que c'est bien élevé de le faire, parce que c'est poli de le faire. » Et il nous a répondu, « Non, vous le faites parce que vous êtes chrétien et que vous êtes dans une école chrétienne. » Et ça a scandalisé, vraiment, ça nous a choqués. Mais je vous parle de ça, c'était de milieu des années 60. Et je me souviens qu'on a été choqués par cette affirmation, parce que nous n'avions pas le sentiment de le faire parce qu'on était chrétien. On avait le sentiment de le faire parce que, c'était bien élevé, normal de le faire. Eh bien, là, on s'aperçoit qu'il y a une très forte disparité, surtout dans l'enquête du secours catholique, entre les générations, sur l'enracinement chrétien de l'engagement. Chez les jeunes, c'est 3%, chez les plus âgés, les plus de... Je retrouve mon chiffre. Chez les plus de 75 ans, c'est 58%. Donc, chez les plus de 75 ans, 58% disent « c'est parce que nous sommes chrétiens que nous sommes bénévoles, c'est les bénévoles du secours catholique, que nous sommes bénévoles au secours catholique ». Chez les jeunes, c'est 3%. C'est énorme, cette différence. Et je pense qu'il y a là matière à réflexion sur la disparité entre les générations, sur ce qui peut fonder un engagement bénévole dans la société aujourd'hui. Voilà, c'est les trois points, si vous voulez, qui m'ont frappé à la lecture de ces sondages. Je résume pour conclure. D'abord, le fait que l'altruisme n'a pas disparu, même s'il a pris de nouvelles dimensions par rapport à ce qu'était l'altruisme dans des générations précédentes. L'envie d'être utile passe par d'autres canaux que les canaux qui étaient... ce que nous pensions devoir emprunter quand j'avais votre âge. Bon, ça c'est quand même important à connaître et peut-être à approfondir. Hein. Deuxièmement, au moment où on nous parle beaucoup d'égalité homme-femme, et j'en suis un ardent défenseur, bah, par rapport à des sujets aussi importants et engageants, c'est le cas de le dire, on est dans des situations différentes. Et pour finir, la motivation de la foi, la motivation chrétienne, elle a quand même connu, alors on emploie à titre larigot le mot d'effondrement, mais enfin quand même, elle s'est considérablement affaiblie. Alors est-ce que c'est par pudeur? Est-ce que ça correspond dans la société, ce que vous avez un peu évoqué, hein, au fait que si on dit « je vais aller au secours catholique », ça peut susciter des réactions négatives et que donc on va être discret par rapport à la forme de cet engagement, ou est-ce qu'on pense que la foi est dissociée aujourd'hui de cette forme d'altruisme et que la foi, la spiritualité s'est vécue sur d'autres terrains que sur celui de l'engagement social? C'est aussi une question qui mérite d'être posée. Voilà les quelques points que je voulais tirer de la lecture un peu aride de ces sondages.
Merci Jean-Luc, ça apporte voilà des éléments voilà sur lesquels on pourra rebondir aussi dans la discussion après coup en tout cas et puis qui résonne bien aussi avec ce qu'on a entendu des témoignages. Alors quelques échos, je prends la parole donc en dernier pour quelques échos théologiques rapport avec la foi à partir de ces enquêtes. Je commence avec le synode des jeunes, donc qui s'est tenu l'assemblée du synode qui s'est tenue à Rome le mois dernier, qui portait donc sur les jeunes, la foi, le discernement vocationnel. Les jeunes étaient bien l'objet de la réflexion synodale, hein, comme d'autres fois le thème du synode c'est l'Eucharistie ou la parole de Dieu ou l'Europe ou l'Afrique. Mais ce synode, sous l'impulsion du pape François, a aussi et d'abord voulu se mettre à l'écoute des jeunes, quoi, et accueillir pour toute l'Église ce qu'ils ont à dire. Dans sa lettre de janvier 2017, François présentait le document préparatoire du synode en disant « Chers jeunes, faites entendre votre cri, laissez-le résonner dans les communautés et faites-le arriver aux pasteurs ». Donc ce n'est pas simplement un synode sur les jeunes, mais un synode à l'écoute des jeunes, un synode pour toute l'Église à l'écoute des jeunes. Le processus synodal, avec les différentes enquêtes d'abord qui ont été faites au niveau des diocèses, mais surtout il y a eu un grand questionnaire en ligne qui a été envoyé, qui a été rendu disponible sur le net et auquel plusieurs millions de jeunes ont répondu, et pas que des catholiques, pas que des croyants. Et puis il y a eu cette rencontre aussi, quatre mois avant le synode, au Rameau l'an dernier, un pré-synode constitué simplement par les jeunes, 300 ou 400 jeunes étaient réunis. Donc voilà, il y avait quand même des choses qui ont été mises en place. Et puis la méthodologie elle-même de l'Assemblée du mois d'octobre, tout ça, ce processus a ouvert un véritable espace, certes toujours perfectible, mais quand même un espace d'écoute des jeunes. Les jeunes présents à Rome, là, pendant le mois d'octobre, ont pris la parole comme experts. Ils ont pu également se manifester par leur réaction quand ils écoutaient d'autres interventions. De temps en temps, ils applaudissaient, ils riaient, ils faisaient boue. Non, je crois que c'était plutôt en manifestant le côté positif, quoi, que ça s'est manifesté. Mais évidemment, certains avaient plus d'encouragement que d'autres, certaines interventions. Et on le sait parce que ça n'a pas laissé indifférents les évêques du tout. Et puis surtout, de manière, bon, ça c'est un petit peu pour dire que le rôle que jouaient les experts, mais c'est peut-être un peu de l'ordre de l'anecdote, plus important, ça on le perçoit pas tout le temps, mais dans le fonctionnement du synode, quand les groupes de linguistique se réunissaient pour avancer sur le document final, pour apporter des amendements, etc., dans ces cercles mineurs, comme on les appelle, par groupe de langue, les jeunes experts participaient. Et de même que les experts aussi, hommes et femmes, et les quelques femmes qui étaient présentes, participaient aussi et apportaient des amendements. Quoi. Voilà. Ça, j'ai entendu les évêques français raconter comment, de fait, ça s'est passé. Donc, pour dire, voilà, il y a, encore une fois, c'est certainement perfectible, mais l'apport des jeunes pour ce synode a été significatif. Et dans le document final commence par mettre un accent très fort, justement, sur la nécessité de cette démarche d'écoute. Le récit des pèlerins d'Emmaüs sert de fil directeur, et c'est d'abord l'attitude de Jésus qui, sur le chemin d'Emmaüs, se met à l'écoute des deux disciples, qui est mis en avant. Le synode reconnaît humblement que l'Église n'est pas toujours à la hauteur. Je cite le document. « Le synode reconnaît cependant que la communauté ecclésiale ne sait pas toujours mettre en évidence l'attitude que le ressuscité avait envers les disciples d'Emmaüs, quand avant de les éclairer par la parole, il leur demanda « De quoi parliez-vous entre vous sur le chemin ? Parfois, on a tendance à fournir des réponses pré-emballées et des recettes toutes faites sans laisser les questions des jeunes émerger dans leur nouveauté et sans saisir leurs provocations. » Puis ce qui est intéressant, que je souligne, c'est qu'un peu plus loin, le document donne une valeur proprement théologique à la démarche d'écoute. Voilà ce que dit le document, dans la traduction automatique en français, mais vous voyez qu'elle n'est pas si mauvaise que ça. Nous croyons qu'aujourd'hui encore, Dieu parle à l'Église et au monde à travers les jeunes. Dieu parle à l'Église et au monde à travers les jeunes. Leur créativité et leur engagement, ainsi que leur souffrance et leur demande d'aide. Avec eux, nous pouvons lire plus prophétiquement notre temps et reconnaître les signes des temps. C'est pourquoi les jeunes sont un des lieux théologiques où le Seigneur nous fait connaître certaines de ses attentes et défis pour construire demain. Ça, c'est le texte du synode au paragraphe 64. Parler des jeunes comme un lieu théologique, c'est une expression très forte, quoi, qui remonte dans l'histoire de la théologie à Melchior Cano, mais qui a pris une autre envergure à partir du concile, à l'époque du concile Vatican II. Parce qu'en fait, ça renvoie à cette compréhension qu'a eu le concile Vatican II de la révélation comme manifestation de Dieu même dans l'histoire, Dieu qui se manifeste dans l'histoire, et non pas la révélation comme simplement une transmission par certains canaux d'un ensemble de vérités toutes faites. Gaudium et Spes parle de la nécessaire interprétation des signes des temps, c'est aussi l'expression qu'emploie le document final du synode, pour y discerner, je cite, les signes véritables de la présence de Dieu. Voilà. Donc toute cette introduction un peu longue, mais pour pointer sur le fait que c'est bien sur cette base qu'il est intéressant et possible d'engager quelques réflexions théologiques à partir de la réalité des jeunes et de la solidarité. Et donc, moi, je le fais très, très modestement et très petitement et imparfaitement à partir des enquêtes réalisées par le Secours catholique. Ouais, je dis très modestement, c'est pas simplement faire de la fausse modestie, mais c'est parce que, évidemment, ce que je vais faire là, c'est pas une démarche logique, comme s'il y avait des éléments qui nous conduisent immédiatement à parler de quelque chose de théologique. Non, c'est plutôt que, en lisant des choses dans les enquêtes, hop, ça me fait penser à quelque chose de théologique. Et donc, je fais le rapprochement. Donc, c'est de l'ordre des intuitions, des pistes. Et puis, c'est modeste aussi, c'est important de le souligner, c'est que, du coup, j'ai travaillé en essayant de lire un peu les enquêtes, et puis me sont venues des idées. Mais vous voyez que c'est pas tout à fait le même travail que de parler, de travailler aussi, et ça serait intéressant de compléter, d'enrichir, de creuser, de partir directement des deux témoignages, par exemple, qu'on vient d'entendre ce soir, quoi. Et d'analyser à partir des paroles, de la manière de parler, voilà, à partir de la parole des jeunes elles-mêmes. Moi, ce dont je vais parler, c'est plutôt la réalité des jeunes vue au prisme d'une enquête sociologique, quoi, d'une enquête d'opinion, voilà. Donc c'est pas exactement la même chose. Ça n'empêche pas qu'il y ait des éléments intéressants qui puissent sortir. Alors ces réserves posées, j'en viens donc à, je vais avoir trois points aussi. C'est bien, on est au centre Sèvres, on a été formé par des gens qui parlent en trois points, comme à Sciences Po, donc c'est bien. Mais à Sciences Po, c'est deux, et après la conclusion. Oui, c'est ça. Donc trois, c'est plus jésuite. C'est trinitaire, tout ça. Voilà. Alors, premier point, sur lequel avait terminé Jean-Luc, l'engagement des jeunes est peu déterminé par leur appartenance religieuse. Ça, c'est la conclusion sans équivoque de l'enquête, aussi bien c'est les deux enquêtes qu'on a regardées. Alors, évidemment, quand on entend ça, comme chrétien, on peut être un petit peu déçu quand même. Mais, premièrement, je dirais, cela nous rappelle peut-être tout simplement que la charité n'est pas l'apanage exclusif des disciples du Christ. Dieu merci. C'est évident, mais ça va mieux quand même en le rappelant. Si notre foi chrétienne nous enjoint à l'amour du prochain, beaucoup d'autres que nous, et bien souvent mieux que nous, mettent en œuvre ce commandement de l'amour. Et puis, rappelons-nous que dans l'évangile, quand même, Jésus fait appel à un non-juif. Lui qui est juif, il fait appel à un non-juif dans la parabole du bon samaritain pour nous enseigner ce qu'est l'amour du prochain. Donc, que l'appartenance religieuse, ou plus spécifiquement pour nous, la foi chrétienne, ne soit pas l'élément déclencheur majeur pour s'engager en solidarité, n'est pas nécessairement problématique. Mais, ça peut être une invitation, un tilt pour nous, pour approfondir le lien entre foi et action solidaire. La lettre de Saint Jacques, hein, dans le Nouveau Testament, nous dit « Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle le sauver ?» Dans l'enquête du Secours catholique sur les bénévoles, il est donc constaté que seulement 16% des plus de... Alors voilà, une piste pour essayer de voir le lien entre foi et engagement social. Dans l'enquête du Secours catholique, il y a un chiffre intéressant. 16% des plus de 65 ans plaçaient l'épanouissement personnel comme une motivation forte pour leur engagement bénévole. De dire, ben, si je m'engage bénévolement, parce que ça m'aide à m'épanouir personnellement. Alors que 16% seulement des plus de 65 ans, alors que 50% de ces plus de 65 ans citaient leur engagement chrétien. Et ça tranche beaucoup avec les générations plus jeunes, où au contraire, l'épanouissement personnel atteint 50 ou soit, enfin, est assez fort, quoi. Et alors, un commentaire dans l'enquête du Secours catholique dit, il est hasardeux, peut-être, mais on peut tenter, quoi, il serait hasardeux d'y voir simplement une dimension sacrificielle, mais ce n'est pas à exclure. C'est-à-dire que, il y aurait chez les générations plus âgées, ben, l'engagement, quoi, mais, ben, je dois le faire, quoi. Je dois le faire. C'est aussi une vision que, quand on a la foi, l'engagement social ou solidaire est une conséquence de cette foi et c'est une obligation, quoi. Un commandement. Si je le fais pas, ça va mal se passer pour moi. Je ne sais pas trop ce qui va se passer une fois que je serai mort. Voilà. Quand on est chrétien, c'est normal. Il faut se sacrifier pour les autres. Alors ça, cette manière de raisonner, c'est certainement beaucoup moins à l'œuvre chez les jeunes générations. Et inutile de nous dire que, bon, il y a quelques problèmes théologiques quand même avec cette approche. Alors au contraire, il y a une autre approche. Et là, je m'appuie sur simplement ce que déploie très bien Étienne. Ici présent, on peut davantage souligner, hein, notamment dans son livre ou ailleurs sur la diaconie, on peut davantage souligner avec lui que l'engagement social, la solidarité, le service de la charité, dans l'Église ou ailleurs, ce ne sont pas seulement des tâches impliquées par l'Évangile ou des exigences éthiques, mais c'est véritablement une source pour la foi, un lieu où la foi se nourrit, un lieu où se révèle Dieu amour. La solidarité peut être vécue comme une expérience spirituelle. Ce qu'on peut appeler la dimension diaconale est alors vraiment au cœur de la vie de l'Église, comme le lieu d'évangélisation des relations, c'est-à-dire le signe que nos relations ne sont pas uniquement régies, par exemple, par la logique du contrat, mais aussi par une logique d'alliance fondée sur un don gratuit. Voilà, cette idée que dans le lien entre foi et engagement social, eh ben, c'est pas une relation d'obligation ou une conséquence pour certains, mais quelque chose qui est beaucoup plus intrinsèque et qui est beaucoup plus au cœur, quoi, que l'un nourrit l'autre. Voilà. L'engagement social pouvant nourrir un développement spirituel et une foi chrétienne. Sans doute que le double constat qu'on peut faire, d'une part, que l'appartenance religieuse ou la foi chrétienne ne soit pas perçue comme un élément déclencheur, hein, comme ce qui me pousse ou ce qui m'oblige à m'engager au service des autres, et d'autre part, alors ça, ce qui apparaît pas dans l'enquête, mais qui vient plutôt de l'expérience quand même, que au sein de groupes de chrétiens, quoi, de chrétiens engagés explicitement parce qu'ils sont chrétiens dans des actions de solidarité, je pense, certaines équipes Saint-Vincent-Paul jeunes ou les équipes de la diaconie ici à la messe qui prend son temps, donc des jeunes chrétiens qui s'engagent aussi au niveau solidaire, il y a beaucoup de demandes quand même de vivre explicitement au cœur de l'engagement social ou l'engagement de charité, de vivre des expressions explicites de la foi, des temps de prière, des relectures priantes, des choses comme ça. Donc, je dirais le fait que d'un côté, ça ne soit pas perçu comme un élément déclencheur, une obligation, mais qu'après coup, dans beaucoup de lieux, quand même, peut y avoir une demande, une aspiration, quoi, à vivre ce lien entre foi et engagement social de manière explicite, ça, je crois que ça va tout à fait dans le sens de ce que déploie Étienne. Foi et engagement solidaire peuvent et doivent s'interpénétrer et se nourrir mutuellement. Voilà un petit peu un premier écho, une première petite chose qui m'est suggérée quoi, en lisant l'enquête. Deuxième point, la volonté d'être utile, qui est au cœur des motivations, et aussi, ça apparaît dans l'enquête, et c'est aussi, on l'a entendu de la part d'Axel et Lucie, la valorisation des échanges, du relationnel. Ce qui me motive, c'est aussi la qualité des échanges, des rencontres que je fais pendant mon engagement. Parmi les motivations se dégage donc cette volonté d'être utile et l'envie de rencontrer de nouvelles personnes. Alors, cela fait écho pour moi, rejoint des points d'insistance aussi du synode. Je lisais que Nathalie Bécard, donc Xavier, qui était experte au synode, qui est l'ancienne directrice du service national des jeunes à la conférence des évêques, elle expliquait dans un article, les jeunes ont besoin d'expérimenter, c'est son expérience quoi, les jeunes ont besoin d'expérimenter pour adhérer, ils fonctionnent à l'affect et à la passion, ils ont besoin de se sentir utiles, de voir l'impact réel de leur engagement. De manière plus générale, le document final du synode souligne aussi que face aux contradictions de la société, beaucoup de jeunes veulent utiliser leurs talents, leurs compétences, leur créativité, sont même prêts à prendre des responsabilités. Donc voilà, indépendamment de toutes les analyses qu'on peut faire sur voilà cette génération qui a à la fois envie d'agir, a besoin de sentir les choses, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt au plan plus théologique. Pour moi, ça résonne beaucoup quand même ici avec une dimension forte de notre foi, qui est la dimension d'incarnation. Et je pense que ça vaut quand même la peine de le relever. Le pape François aime à répéter, hein, parmi ses grands principes, qui sont les principes en fait pour avancer dans la construction d'une communauté humaine authentique, hein, le fait que la réalité est plus importante que l'idée. Il dit, il est dangereux de vivre dans le règne de la seule parole, de l'image, pour remettre la réalité au-dessus de l'idée, ben cela suppose, il dit, d'éviter diverses manières d'occulter la réalité, notamment les projets plus formels que réels occultent la réalité, les fondamentalismes aussi occultent la réalité, les éthiques sans bonté, éthiques, on va dire, trop voilà déontologiques, peuvent aussi occulter la réalité. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est dans Evangelii Gaudium, le pape fonde théologiquement son propos en ajoutant « Ce critère est lié à l'incarnation de la parole et à sa mise en pratique. À ceci, reconnaissez l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu dans la chair et de Dieu. » Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu dans la chair est de Dieu. C'est la première lettre de Jean. Je soulignerai aussi, par rapport à ce point-là, l'importance des relations et de la qualité de ces relations. En fait, du service aux autres naissent de véritables relations fraternelles. Ça, vous l'avez aussi mentionné. Et c'est finalement ça qui donne le véritable sens de l'engagement solidaire. Un point de l'enquête sur les bénévoles du Secours catholique souligne la place importante parmi les satisfactions exprimées, parce qu'il listait tout un tas de satisfactions, puis les gens pouvaient en cocher plusieurs, quoi. Et une de ces satisfactions, c'était un regard différent par la rencontre avec les personnes vivant des situations de précarité. Et ben ça, ce point de satisfaction, que l'engagement permet ce regard différent, 63% des moins de 25 ans l'avaient coché. C'est la catégorie de tranche d'âge où les gens sont le plus sensibles. Les plus âgés étaient moins sensibles à ça. Et l'analyse après poursuit, on peut oser une interprétation en forme de raccourci, c'est grosso modo, j'étais venu pour distribuer les repas, j'ai rencontré des frères. Voilà. Et ça, je crois que voilà, il y a quelque chose qu'on entend régulièrement là-dessus. Eh bien oui, l'engagement solidaire transforme. Et je crois que là encore, au niveau plus, si on porte un regard de foi là-dessus, ça rejoint tout à fait ce qui est au cœur de l'option préférentielle pour les pauvres, telle que la présente le pape François, hein. Donc, il dit que c'est bien une catégorie théologique et pas avant d'être une catégorie culturelle, sociologique ou philosophique. Il dit, au cœur de l'option préférentielle pour les pauvres, pour le pape François, il y a cette affirmation, les pauvres, les plus fragiles, les exclus, ont beaucoup à nous enseigner. Voilà. L'engagement solidaire transforme, on apprend des plus pauvres. Dernier point, dernier groupe de remarques que je voudrais faire. On constate dans l'enquête que parmi en regardant vers où vont les désirs d'engagement des jeunes, quoi, on trouve en priorité les sujets environnementaux, voilà, l'écologie, mais aussi les missions de solidarité avec les personnes en situation précaire ou les personnes âgées. Et donc, voilà, que ces deux éléments soient portés ensemble, évidemment, voilà, est intéressant. Le synode fait aussi ce constat. L'engagement social est une caractéristique spécifique des jeunes d'aujourd'hui. Aux côtés de ceux qui sont indifférents, nombreux sont ceux qui sont prêts à s'engager. L'engagement social et le contact direct avec les pauvres restent une occasion fondamentale pour découvrir ou approfondir sa foi et discerner sa vocation. Et puis, le texte du synode ajoute, l'encyclique Laudato Si a su catalyser une prise de conscience forte et généralisée des questions écologiques et de la durabilité. De fait, le cœur de l'encyclique Laudato Si, hein, c'est bien de lier étroitement questions sociales et questions écologiques. Dans un même mouvement, le pape nous invite, je cite, à reconnaître qu'une vraie approche écologique se transforme toujours en une approche sociale qui doit intégrer la justice dans les discussions sur l'environnement pour écouter tant la clameur des pauvres que la clameur de la terre. Donc, au fond, le chemin de l'écologie intégrale que nous trace le pape, c'est la feuille de route actualisée de la doctrine sociale de l'Église ou de ce que dans Evangelii Gaudium on appelle la dimension sociale de l'évangélisation. Eh bien, cette nouvelle feuille de route, hein, d'écouter la clameur de la terre et la clameur de des pauvres, il me semble qu'elle est déjà largement intégrée par les générations les plus jeunes, quoi. Même si ça n'enlève rien au fait que le défi soit colossal et que, à cause de toutes les conversions que ça requiert, quoi. Voilà. Et les jeunes aussi ont à se convertir, peut-être nous aussi, mais voilà, tout le monde a à se convertir. Mais en tout cas, on voit bien comment, naturellement, en fait, les deux choses, ces deux clameurs, finalement. Le lien se fait presque naturellement. Quoi. Alors voilà, je m'arrête là. Encore une fois, c'est quelques pistes de réflexion schématiques et embryonnaires, mais simplement, elles illustrent pour moi le fait qu'on renouvelle assez régulièrement un certain nombre de théologiens, que pour le théologien, le fait de s'intéresser à une réalité concrète et se mettre à son écoute, ben, c'est toujours stimulant dans notre quête de théologien de toujours essayer de renouveler la manière de dire le mystère de Dieu. Et de fait, je crois que le synode a raison de dire « Dieu parle à l'Église et au monde au travers des jeunes et de leur engagement ». Voilà. Donc vous avez beaucoup entendu. Il me semble peut-être que le mieux maintenant, ça serait de vous donner la parole et puis voilà, que vous puissiez poser des questions à l'une ou l'autre d'entre nous ou faire part aussi à partir de ce qu'on a dit de nos réflexions. Moi j'aurais quand même, avant que je vous donne la parole, j'ai juste une question par rapport à cette question que Jean-Luc tu as soulevé, la question du genre, quoi. Comment est-ce que vous réagissez, est-ce que de fait, vous, votre expérience au sein des bénévoles du Secours catholique de votre génération, quoi, est-ce que c'est très déséquilibré entre garçons et filles, ou il y a une présence aussi de garçons, et voilà. Qu'est-ce que vous diriez?
Alors, de mon côté, enfin, dans mon équipe, en tout cas, on n'est pas énormément, on est 4-5, Et dans les plus actifs, bon, il y a un garçon et moi. Donc, c'est plutôt équilibré. Il y a beaucoup de filles, mais on ne les voit pas souvent, en fait. Elles sont étudiantes, donc c'est compliqué. C'est plus facile pour moi, qui ai terminé mes études, de m'engager plus facilement.
Bon, chez nous, pour le coup, c'est très déséquilibré. Avant que j'arrive dans ma délégation, il y a eu, je suis la 9e volontaire, et donc uniquement des filles. Je travaille quasiment qu'avec des filles. J'ai un tuteur qui se sent très seul, je crois, des fois. Quand je l'accompagne en réunion, il n'a que des collègues féminines et que des bénévoles féminines aussi. Là, on s'est retrouvés à la formation volontaire qui rassemblait en fait tous les volontaires service civique du Secours catholique. Il y avait 3 garçons, on était 22, je crois. Donc c'est quand même plutôt déséquilibré, oui.
Alors, réaction et question. Votre témoignage aussi, de ce que vous percevez dans vos contextes.
Peut-être on va prendre le micro. Oui.
J'ai le micro, vous pouvez le demander aussi. Moi, j'avais une question un peu plus, ou une réaction sur l'opposition que tu as faite tout à l'heure, Grégoire, entre les gens qui disent « moi, j'ai envie de m'engager parce que je suis chrétien, mais c'est un peu par obligation », enfin, au sens où on sent qu'il y a quelque chose de l'ordre du devoir derrière, ou peut-être de la tradition, de l'éducation. Et puis d'autres qui disent « mais plutôt, moi, c'est plutôt pour le développement personnel, pour... » Ouais. Je pense que c'est vraiment en fait les deux faces d'une même monnaie, si on peut dire, mais qui s'expriment différemment. Moi je serais tenté de ne pas les opposer trop en disant bah, ce que disait Axel tout à l'heure, c'était un peu ça, j'y trouve mon compte, et puis c'est aussi pour donner du sens à ce que je fais, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas aussi une ressource spirituelle qui est en jeu, hein, ce que tu disais tout à l'heure. Moi, ça m'aide aussi dans ma vie spirituelle, mais ça vient pas forcément en premier, mais ça, c'est là quand même, mais pas au même endroit. Voilà. C'est pas ce qui va déclencher, mais c'est pas absent. Et peut-être qu'après, on se sent finalement, nous-mêmes, invités, oui, en se disant, bah oui, ce serait bien que je le fasse, et que finalement, la motivation se retourne. Voilà. C'est pour dire que c'est pas forcément. Je pense que c'est aussi une manière de s'exprimer. Et donc, dans les réponses aux enquêtes, c'est très générationnel, cette manière de répondre. Et donc, les plus anciens vont dire, bah, c'est normal parce que je suis chrétien. Et les jeunes vont dire, bah, parce que ça m'aide. Et c'est peut-être pas forcément si différent que ça.
Voilà. Que les anciens peuvent être aussi, en fait, ça leur apporte quelque chose. Et que les plus jeunes, s'ils ont une spirituelle, mais ils le diront pas.
Puis c'est vrai aussi que les jeunes, ils ont aussi davantage besoin de se trouver eux-mêmes, parce que c'est pas si évident de savoir qu'est-ce qu'on veut, quel sens on veut donner à sa vie, et que bah, peut-être que les anciens ne se posent pas ces questions-là. Je ne sais pas comment tu réagis.
Oui, je pense que oui. Ce qui m'avait fait réagir, c'était cette chose, là, cette histoire de démarche sacrificielle. Quoi, voilà, tout en disant que c'était une extrapolation. Tout ça. Et ce fait, je me disais que bah, si on est sorti de la démarche un peu pas forcément un mal. C'est-à-dire que dans l'idée, c'est si je veux gagner mon paradis, il vaut mieux que j'aille aider un petit peu au Secours catholique pour racheter de ce que j'ai fait. Je caricature complètement. Mais je pense que c'est dans notre arrière-fond, à certains moments, il y a un petit peu ça. Après, certainement qu'il faut être beaucoup plus fin. Enfin, ce que tu dis, hein, de l'articulation entre, on va dire, devoir et puis finalité, ben, elle est pas... c'est de fait les deux faces d'une même monnaie.
Mais ça peut renvoyer sur un plan un peu différent à des travaux de Guillaume Cuchet, alors pas son dernier livre, mais ses travaux sur le purgatoire, et où il a montré qu'il y avait quand même une évolution du discours, justement, sur cette question du sacrifice, du péché, de la rédemption, et que quand même, le sens du sacrifice dans les générations les plus anciennes reste encore très imprégné dans l'éducation qui a été reçue et dans la façon de vivre, alors que ça s'est peu à peu atténué pour les générations les plus jeunes. On vit pas ça exactement de la même façon, et que dans les générations plus anciennes, probablement que l'idée de sacrifice passait avant l'épanouissement personnel, même si cet épanouissement personnel est relationnel, on est bien d'accord, et que dans les générations plus jeunes, un épanouissement personnel relationnel passe avant l'idée de sacrifice ou de péché.
Pas du tout. Dans mon cas, absolument pas. Le sacrifice, non, au contraire, c'est un plaisir de faire ça.
Oui, je suis d'accord avec ce que vous avez dit tous les deux. Je pense pas qu'on s'engage dans ce sens-là, dans le... Moi, je le prends pas du tout comme un sacrifice non plus. Et c'est vrai que globalement, j'ai l'impression que chez les jeunes, on s'engage pour se trouver aussi peut-être, parce que c'est le propre de notre âge où on a besoin de savoir qui on veut devenir. Et puis parce qu'en donnant, on trouve une grande richesse en fait dans nos échanges, quoi, avec les gens, mais non, moi je le sens pas du tout comme un sacrifice.
Juste une petite remarque et une question en même temps. Donc j'étais en début de semaine avec les services civiques du Secours catholique où il y avait ils étaient en formation. Donc dans une vingtaine d'années, tu étais, donc tu vas pouvoir témoigner aussi. Mais je l'ai pas entendu là, c'est pour ça que je voulais le faire rebondir. Et il y a eu un débat sur la question spirituelle. Donc il y avait des personnes athées, il y avait des personnes musulmanes, il y avait des personnes qui avaient la foi. Et ce qui m'a impressionné, c'est qu'il y avait un discours très naturel les uns par les autres. Et que je trouve que c'est une nouveauté, cette mixité interculturelle, ce que vous avez pu vivre aussi à Young Caritas à Saint-Malo, mais ça ressort pas là. C'est-à-dire que il y a dans les nouvelles générations on a pu avoir des pudeurs de parler du spirituel, mais là non, on parle du spirituel, de l'interreligieux, naturellement dans une formation de service civique, et ça m'a impressionné dans le bon sens du terme, voilà, dans un vivre ensemble plein d'espérance. Mais Axel, si tu y étais, tu peux témoigner aussi.
Ouais, bah ça m'a moi aussi j'ai été surprise, et d'ailleurs quand vous êtes partis, on n'a pas réussi à terminer notre programme parce qu'en fait ça a suscité tellement de réactions qu'on en a encore discuté pendant presque une heure. Et j'étais assez contente parce qu'on a tous réussi finalement à communiquer, à trouver un terrain d'entente et à se dire finalement, enfin quoi qu'on entende par spiritualité, que ce soit au sens religieux, que ce soit d'une religion chrétienne ou musulmane, on a tous réussi à se mettre d'accord et à se dire au final on recherche les mêmes choses, on est en quête des mêmes valeurs aussi. Et donc ouais, c'était un beau partage et j'étais surprise qu'on en arrive à ces conclusions-là.
Alors bonsoir, donc Guy, donc je suis chargé de mission au niveau du service civique à la Conférence des évêques de France, donc je pense qu'on se reverra. Une question pour Jean-Luc, c'est le profil donc des jeunes donc qui ont répondu donc à l'enquête. Hein. J'ai vu l'enquête, j'ai un peu contribué un tout petit peu, mais il y a une chose que j'ai pas vue, que j'ai pas lue, c'est-à-dire la typologie. Donc vous avez parlé justement donc du genre, donc vous avez parlé plutôt justement qu'il y avait une majorité justement de femmes. Mais moi il y a une question qui m'intéresse, c'est l'origine de ces jeunes géographiques. l'origine même sociale. Pourquoi je vous pose la question? Parce qu'aujourd'hui, il y a une question qui est soulevée donc par rapport à un dispositif qui s'appelle le Service National Universel. C'est un projet gouvernemental donc par rapport au président Macron. Parce qu'il y a une problématique. Il y a une problématique de cohésion sociale et surtout justement d'engagement justement des jeunes. Alors, ça me fait plaisir et à chaque fois je mets en avant que 43% des jeunes s'engagent. C'est superbe. Mais je pense qu'il y en a qui sont sourds à ça. Donc il y a un problème justement de cohésion sociale et on va peut-être imposer, même pas peut-être, je pense qu'ils vont imposer à une tranche d'âge, à une classe d'âge, donc un engagement obligatoire. Alors je sais pas comment vous aussi les filles vous vivez justement cette votre engagement par rapport à la notion d'obligation, mais voilà, une solidarité, un engagement donc bénévole, un engagement solidaire. Voilà, moi la question c'est qui sont ces jeunes qui répondent et ceux qui n'ont pas répondu à la question, qui sont-ils aussi donc?
Alors, j'ai pas imprimé ce qui est donné au début de tout sondage, hein, c'est-à-dire le panel avec la ventilation des personnes sondées. Je n'ai pas de souvenir, je l'ai lu, je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu une ventilation par origine sociale.
C'est ça, non.
Et géographique, hein. Non plus.
C'était par contre sur 1000, dans un temps très, etc. C'était extrêmement rare.
Mais après, il y avait...
Tout le monde
est représenté. Dans, oui. Ça, c'est la technique des quotas.
Des quotas,
dans
oui.
Le traitement des résultats, ils n'ont pas fait de traitement
c'est pas ventilé.
Ils ont fait un traitement différencié par genre, oui. Mais pas par origine sociale. Donc, on n'a pas les éléments pour analyser ta question.
La question derrière aussi, quels peuvent être aussi les freins?
Alors ça je peux donner quelques réponses. Je l'ai pas analysé, je ne voulais pas vous lire le sondage, mais les freins, c'est avant tout des freins d'ordre matériel. Donc c'est les conséquences financières d'un engagement, les contraintes relatives à la vie familiale, les contraintes professionnelles. Les raisons ayant trait à l'état d'esprit des jeunes sont moins citées, peur de l'éloignement, sentiment de manque de compétences, etc. Mais le premier frein, c'est une contrainte matérielle. Ça a été analysé. Oui.
Si Axel, sur cette question de l'engagement obligatoire, entre guillemets.
Déjà, je voudrais compléter ce qu'a dit Jean-Luc, parce qu'on en a beaucoup parlé aussi de l'engagement des jeunes, avec Emmanuel Curis, du coup, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler pendant 6 mois.
Emmanuel Curis, c'est le responsable national
des Young Caritas.
Voilà. Donc salarié du Secours catholique.
En fait, j'ai pu lire certains documents où au niveau du Secours catholique, le principal frein à l'engagement, c'est l'heure des activités. Au Secours catholique, les activités, elles sont notamment, enfin, en grande majorité, tenues par des personnes de plus de 65 ans, donc retraitées, donc généralement le matin, l'après-midi, la semaine, ce qui n'est pas possible pour nous, carrément. C'est plus le soir ou les week-ends pour nous. Et le soir et les week-ends, il n'y a pas grand-chose. Il faut se le dire. Ensuite, pour la question de l'obligation, alors, en ce qui me concerne, absolument pas. Et j'ai même eu le cas où mes parents ont essayé de me forcer à arrêter le bénévolat. Et moi, j'ai tenu bon, j'ai tenu tête. Je leur ai dit, mais non, c'est pas possible. Enfin, c'est ce qui me fait me lever le matin. Donc, c'est hors de question que j'arrête ça. Et même encore maintenant.
C'est l'article 31 de la loi de séparation de l'Église et de l'État. Donc, on l'a complètement oublié. Mais, il interdit ce genre d'interdiction.
Si j'ai bien compris, par rapport au CNU, mais vous pouvez me corriger, il y aurait donc deux phases. Une phase où, entre 16 et 18, je crois, où les jeunes seraient réunis pendant 15 jours. Et donc là, ce serait obligatoire. Et une phase qui ressemblerait au service civique, mais moins long, c'est-à-dire de 3 à 6 mois, je crois. Alors qu'actuellement, les missions, c'est au-delà de 6 mois, sinon ce n'est pas considéré comme un service civique, je crois. Je me dis que peut-être que la phase collective de 15 jours, elle peut permettre cette mixité sociale, et puis elle peut sensibiliser après à tout ce que ça peut apporter un service civique. Mais après, obliger la deuxième phase, je sais pas, ça me paraît un peu... je sais pas si du coup ça a énormément d'intérêt, parce que si... Enfin, j'imagine que si on était obligé de choisir une... Enfin, ouais. L'engagement, il serait pas le même, quoi. Enfin, c'est pas... ça pue les mêmes... On peut pas, enfin, on peut pas valoriser quelque chose qui a été dont on a été obligé de, auquel on a été obligé de participer. Et puis puis même pour les associations, je me dis c'est compliqué de monter un projet en 3 mois. Enfin, c'est assez court. Donc ça me paraît, ouais, je sais pas si c'est vraiment une super bonne idée de l'obliger. Après, si ça permet de sensibiliser à l'engagement et si ça peut permettre aux gens d'apprendre à vivre en collectivité et si ça peut leur permettre de se mélanger, ben pourquoi pas, mais je sais pas trop comment ça va être mis en place, voilà.
Sur ce point-là, je vois qu'il y a Olivier Barraud au fond de la salle. Je pense que c'est intéressant de réfléchir comment ça se passe aussi. C'est pas une question si simple que ça, parce que dans les établissements scolaires, quoi, ou les établissements scolaires d'enseignement supérieur, quoi, il y a quand même des expériences où, nous on l'a dans le réseau jésuite, où grosso modo, on rend obligatoire une action sociale. Et ça produit des fruits. Voilà. J'ouvre la question, peut-être t'as peut-être des choses à dire sur ce point-là, ce que tu connais bien. Mais...
Ça n'a pas été évident à mettre en place. La première réaction, effectivement, des étudiants, j'ai à la fois l'expérience de l'ICAM, donc Institut catholique d'arts et métiers, où on a systématisé un engagement solidaire en deuxième année sur les 5 années post-bac. Et puis, j'ai l'expérience des lycées, hein, puisque un programme d'action sociale est quasi obligatoire, quoi, est obligatoire dans quasiment tous les établissements jésuites en France. Mais l'expérience de l'ICAM, quand on l'a introduit, cette obligation, ça a pas mal tiqué de la part des étudiants en disant, mais vous rendez obligatoire quelque chose qui est volontaire et libre. C'est-à-dire une fois que la chose était en place, quasiment tous les étudiants en reconnaissent la valeur et disent le sens. C'est pour ça que je tiquais un petit peu en vous entendant tout à l'heure, Axel. C'est pas parce que c'est obligatoire que ça n'a pas de sens. Il s'agit de réengager sa liberté dedans et de retrouver le sens par rapport à quelque chose qui fait partie des meubles, peut-être, et qu'on vit peut-être dans un premier temps sous la contrainte. Mais...
Question.
Ouais. Oui, merci. Merci beaucoup. Je revenais juste pour faire écho à ce que j'ai entendu sur la question de la spiritualité. Et j'aimerais dire qu'effectivement, les voies de la spiritualité sont diverses. Et effectivement, comme Grégoire l'a bien dit, que les voies de la solidarité ne sont pas seulement et exclusivement chrétiennes. Elles peuvent être aussi bouddhistes et musulmanes et tout autre. Et les jeunes l'ont constaté depuis quelques années, qu'il y a de plus en plus d'associations qui prennent vraiment une grande ampleur et qui sont interreligieuses et interconvictionnelles, où il y a des jeunes qui travaillent ensemble au quotidien et qui sont issus de nombreuses religions, et parmi elles, parfois des non-croyants. Et je dirais un témoignage à ce sujet, mais un instant, je reviens sur ce que vous aviez dit sur le fait de gagner son paradis. D'un point de vue musulman, je suis musulman, donc je peux en parler un instant. Il est question de récompense, mais ce n'est pas cela qui ouvre le salut. La récompense, ça fait partie du chemin, ça fait partie de la promesse, mais le salut, c'est tout autre. Et le salut s'acquiert par la pleine conscience. Et la pleine conscience ouvre un chemin à l'action concrète, l'action quotidienne, envers le frère, et ouvrir des chemins d'espérance et de fraternité. La récompense n'est que l'un des aspects. Et une bonne action avec un espoir de récompense ne signifie pas de la pleine conscience. Et donc c'est plutôt un frein au lien intime à Dieu. Et effectivement, quand les jeunes s'engagent, ce n'est pas pour avoir une récompense eschatologique, c'est tout à fait autre chose. C'est surtout pour dire ce que Jean-Luc a dit à la fin, c'est être prêt à prendre ses responsabilités. C'est toi qui l'as dit ou c'est Grégoire ?
Ouais, non,
voilà. Et en fait,
c'était le synode, le texte du synode.
Voilà.
Les jeunes sont prêts à
Et en fait, c'est ce que j'ai constaté, par exemple, à coexister, des gens avec qui on a de nombreuses coopérations, le Secours catholique, par exemple, eh bien, les jeunes répètent sans cesse que c'est pour se positionner dans la société, et dans le climat social et dans les interactions sociales, c'est pour signifier qu'ils sont prêts, librement, à prendre leurs responsabilités. Un petit témoignage, j'en termine très vite, c'est que je viens de Casablanca et au moment où je suis arrivé en France pour mon doctorat, je suis venu avec mes bagages, mes livres, mes affaires. Je n'avais ni ressources ni logement. À part quelques jours, je me retrouvais totalement démuni. Ceux qui m'ont aidé, ce n'étaient ni des musulmans, ni des chrétiens, ni des personnes croyantes, c'était des personnes qui disaient être athées et qui l'affichaient très ouvertement. Je suis sûr qu'ils avaient une profonde spiritualité, mais qui est la leur. Les voies de la spiritualité sont vraiment diverses, et il faut reconnaître à chacun sa voie et intrinsèquement sa possibilité de voir l'éthique à sa façon. Et donc, c'était des personnes qui se déclaraient athées, mais qui affichaient une manière révolutionnaire, c'est-à-dire une manière de voir désormais l'avenir autrement et de se projeter dans l'avenir autrement que par une foi en une religion. Donc la solidarité, c'est aussi un aspect de personnes qui n'affichent pas une morale religieuse, qu'elle soit chrétienne ou musulmane, mais plutôt une foi en l'avenir. Et c'est une manière de donner une spiritualité. Alors voilà, une question à Axel et Lucie. Avez-vous contact avec des gens de diverses religions et qui ou d'autres qui ne sont pas croyants et qui affichent une solidarité aussi ferme et déterminée que celle des personnes de grande foi? Merci.
Alors, en ce qui me concerne, déjà, moi, je suis non-croyante, et je ne le cache pas, au contraire, mais je suis ouverte à d'autres religions. Enfin, oui, je côtoie des personnes qui sont chrétiennes, qui sont musulmanes, puisque au Secours catholique, on a des bénévoles de toutes confessions. Il y aurait des bénévoles bouddhistes qu'on les accepterait, ça, j'en suis certaine. Et au niveau des Young Caritas, en tout cas, enfin, la camaraderie, elle est là. Qu'on soit athée, chrétien, musulman, enfin, on s'en fiche, en fait. La spiritualité, non. Mais la confession, on s'en fiche. C'est mon vécu à moi, en tout cas.
Ben oui, comme tu le partageais tout à l'heure, il y a des... tu parlais d'Abou Bakar, qui est bénévole au CEDRE, qui est un centre d'entraide pour demandeurs d'asile
et réfugiés.
Et donc ces personnes-là, en général, après, ont d'autant plus envie de s'engager. Et donc, de plus en plus, les groupes sont mixtes. Et c'est un sujet dont on a besoin de parler. On s'en rend compte. C'est pas pour rien d'ailleurs que les universités d'été. Donc il y a eu une fois un thème sur il y a eu l'immigration.
Oui, ça c'était en 2016.
Quand on a consulté les jeunes pour savoir ce qu'ils voulaient faire l'année suivante, ils ont parlé d'interreligiosité
et
d'interculturel. Donc en fait, on revenait toujours un peu sur le même thème.
Et si je peux rajouter quelque chose à ces universités de Saint-Malo, parce que celles de l'année dernière sur l'interculturel et l'interreligieux, je les ai vécues, j'y étais. Et pour la première fois, je crois, il a été mis en place une prière musulmane le vendredi après-midi où tout le monde pouvait assister et poser des questions, etc. Et aussi une messe chrétienne. Et cette année, même si le thème c'était l'écologie, on a eu la même démarche avec en plus ce qu'on appelle des kawa, c'est-à-dire des moments où on peut discuter. Et j'ai vécu le kawa musulman, on avait un musulman avec d'autres non-musulmans, on avait des questions, on pouvait poser toutes les questions qu'on voulait. Enfin, c'était un très bon enfant, très bienveillant tout le temps.
Non, je sais pas si... Non, moi, je voulais simplement revenir sur du basique. Tout à l'heure, on a parlé du déséquilibre garçon-fille. Et je voulais poser des questions à Axel et Lucie. Qu'est-ce qu'elles pensent de leurs camarades garçons? Pourquoi ne s'engagent-ils pas? Moi, je voudrais bien comprendre, parce que c'est vraiment une question qui m'intéresse. Moi-même, j'ai des engagements à type bénévole, hein, et je suis toujours entouré que de filles. Alors c'est très agréable pour moi, je ne sais pas, mais d'un autre côté, je ne comprends pas pourquoi le garçon ne s'engage pas. Là, il y a quelque chose qui m'échappe totalement. Est-ce qu'elles peuvent me donner une piste?
Oula.
Bon, Bon, franchement, j'ai pas de réponse comme ça qui me vient, mais je suis en train de réfléchir dans mon entourage. Il y a des garçons qui m'entourent et qui veulent que j'arrive pas à ramener à mes réunions Young Caritas. Je me demande pourquoi. Je sais pas, peut-être que. Enfin, dans ces cas précis-là, c'est parce que je pense qu'ils ont pas envie de prendre la parole dans le groupe. Peut-être qu'ils se sentent moins à l'aise que. Encore que toutes les filles se sentent pas à l'aise à l'oral, donc ça, c'est pas forcément vrai, mais.
Pas trop dur. Enfin, dans mon entourage, moi j'ai un petit frère donc qui a 20 ans et j'ai beau essayer de lui parler des bénévolats, des Young Caritas ou même dans une autre association, il veut pas en entendre parler, ça ne l'intéresse pas. Mais il y a un des Young Caritas que je côtoie assez fréquemment puisqu'il est très actif, qui s'appelle Alexandre, qui a à peu près le même âge, et lui il est vraiment engagé à fond. Enfin, je pense que c'est vraiment une question d'envie. Peut-être que les filles se sentent plus concernées que les garçons. Enfin, c'est qu'une supposition, j'en sais rien.
Ça vient peut-être un peu aussi des représentations sociales où femme doit prendre soin, je ne sais pas du tout, mais je pense que c'est ça. Un peu.
Pardon, mais ça c'est quand même un problème très sérieux par rapport à tout le discours qui est diffusé aujourd'hui sur le genre, sur l'égalité homme-femme, dont je suis un très fervent partisan, on se rend compte en même temps que sur le terrain, dans les cas concrets, rien n'est fait pour corriger des déséquilibres qui perpétuent des stéréotypes culturels tels que ceux que vous venez d'évoquer. Hein. Je ne dis pas que ce soit les filles ou les jeunes filles ou les femmes qui en soient responsables, mais c'est quand même bientôt 70% des magistrats soient des magistrates alors qu'il y a 5% de filles dans les écoles d'ingénieurs et qu'on ne fasse rien pour corriger ce déséquilibre, c'est très préoccupant quand même. Voilà.
D'un autre côté, je me dis le déséquilibre, il est peut-être quand même un petit peu en train de se corriger, parce que quand je regarde les équipes locales où il y a plutôt des retraités, il y a beaucoup de femmes. Et aujourd'hui, quand même, dans les équipes Young Caritas, il y a quand même plus d'hommes que dans les équipes locales. Je sais pas, par exemple, tu vois, hier j'étais au Cèdre, c'est beaucoup de garçons.
Quand même, ces stéréotypes restent forts, de la même façon que, alors je m'engage avec prudence sur ce terrain devant des spécialistes de théologie morale, mais à travers la question du service civique obligatoire, bon, on tourne autour de quoi? On tourne autour de quelle est l'éthique commune dans cette société. Bon. Et après que Sarkozy, Nicolas Sarkozy, dans son discours du Latran, avait évoqué la morale du prêtre, qui n'était pas la même que celle de l'Institut. Alors, vous vous souvenez quand même de tout ce que ça... on a eu une réforme de l'enseignement de laïque de la morale à l'école, qui n'a débouché sur strictement rien. Ça n'est toujours pas fait. On a affiché dans les classes des affiches sur ce qu'est les dix commandements laïque de la morale, ce qui était une aberration, presque un oxymore. Bon, et puis ça n'a débouché sur rien. Moi je crains que la question que vous posez sur le service civique contraint aboutisse au même résultat.
C'est un peu ce qu'on a essayé.
Étienne, c'était simplement pour revenir sur un des points. Il me semble que c'était présent dans vos deux interventions, Axel et Lucie, sur le fait que parmi des jeunes engagés au Secours catholique, il peut y avoir des jeunes qui ont été aidés aussi. Et il me semble que vous, à la fois, vous l'avez mentionné en disant que entre vous, c'était pas une différence qu'on ressentait du tout, mais qu'il y avait une fraternité, comme avec n'importe qui d'autre. Et il me semble que, enfin, en vous entendant, je me dis, est-ce que ça fait pas partie des ressorts de l'action? Parce que ça donne beaucoup à espérer, ça, finalement, de voir que, disons, ce qui pourrait être des grands abîmes qui nous séparent, en fait, on peut assez facilement arriver à les dépasser et à se retrouver vraiment sur le même pied d'égalité, quoi, voilà. Voilà, donc est-ce que, voilà, je voulais revenir là-dessus. Et peut-être que c'est plus facile de vivre ça chez les jeunes que chez des adultes aussi. Donc peut-être que là, vous portez quelque chose de manière plus forte que des adultes. Je sais pas ce que vous en diriez.
Ben ouais, c'est un peu le but, je pense, du secours, de développer le pouvoir d'agir des personnes accueillies et que du coup elles puissent se sentir utiles elles-mêmes et s'engager. Ben c'est génial, ça leur redonne, je pense, une dignité, ou enfin en tout cas ça a l'air de les rendre heureux, donc enfin, j'espère que. Et oui, donc je sais plus ce que je voulais dire.
Entre jeunes, c'est vrai que là, il y a les relations entre vous, quoi, c'est ça qui.
Oui, oui, après on fait plus attention de qui était accueilli, qui était, etc. Et, exactement, oui. Ce qui nous unit, c'est plus ce qu'on va pouvoir faire ensemble.
Oui, je suis complètement d'accord. Parce que pour donner un exemple, il y a deux copains qui ont été accompagnés par le secours pour l'insertion professionnelle. Mais au début, je ne le savais pas. Je l'ai su après, mais ça n'a rien changé. C'est toujours des amis, on se voit encore, même s'ils ne sont plus trop actifs parce que maintenant ils travaillent. Donc rien n'a changé, même si j'ai découvert qu'ils avaient été accompagnés. Enfin, pour nous, ça n'a pas d'importance, en fait. Même moi, j'ai tendance à dire le mot accueilli, j'aime pas. Parce que enfin, chez les jeunes, en tout cas, on est tous des bénévoles Young Caritas. Il n'y a pas de différence accueilli ou accueillant. Enfin, on est tous des jeunes, quoi. On est tous engagés pour la même chose.
Ouais, puis on préfère pas se sentir accueillant en plus, parce que je pense, moi personnellement, je me sens pas légitime de dire. Que l'aide, elle est descendante, en fait, enfin, que j'aide quelqu'un, c'est lui aussi m'apporte quelque chose, et du coup, c'est mieux comme ça, c'est mieux qu'en gros les rôles puissent tourner, et pour moi, c'est une super nouvelle quand par exemple, certains jeunes avec qui j'animais des ateliers, certains jeunes des ateliers d'insertion, me disent ah, bah tiens, est-ce que moi aussi je pourrais pas animer un atelier pour les prochains jeunes en gros qui viendront en atelier d'insertion, enfin, je me dis ben c'est super, enfin il est peut-être le mieux placé en plus pour transmettre pour transmettre un truc à des jeunes, parce que lui-même il est jeune, et ouais, c'est génial qu'il puisse agir lui aussi.
Je sais pas si je peux en parler, mais je vais donner un exemple perso, parce que j'ai été étudiante à Lille, j'étais dans une résidence étudiante. Et j'ai voulu monter une veillée, en fait, sur le secours catholique et les Young Caritas. Et j'ai invité un copain, donc Boubacar, dont on parlait tout à l'heure. Je lui ai proposé de venir témoigner, puisqu'il a vécu énormément de choses. Parce que je voulais faire quelque chose sur les migrants. Parce qu'on a beaucoup entendu parler de la jungle de Calais, et je me suis dit, Lille, Calais, Lille, bah, au final, c'est pas très loin. Et j'ai voulu essayer de démonter tous ces clichés qu'on peut avoir, et justement d'essayer de rapprocher tout le monde. Et du coup, j'ai invité cet ami, donc, qui s'appelle Boubacar, à témoigner. On était une dizaine de jeunes, en gros, dans la salle commune de la résidence. Et ça a déclenché pas mal de prises de conscience, de dire, mais pourquoi on passe devant comme ça sans les regarder, alors que ben, finalement, ils sont comme nous. Ou lui nous a raconté son parcours à lui, qu'il a connu la rue, il a connu le 115. Hein, et nous, on ne se rend pas compte, en fait. On est... Je vais le dire comme ça, mais enfin, moi je suis privilégiée, clairement. Et on ne se rend pas compte qu'il y en a plein qui n'ont pas cette chance-là. Et ces échanges-là sont extrêmement riches. De prise de conscience, de se dire bah, je veux agir, qu'est-ce que je peux faire. C'est vraiment extrêmement riche.
Alors merci beaucoup Lucie et Axel pour vos témoignages. Moi j'ai envie de dire, enfin c'est pas une question, c'est plus un constat. J'ai le sentiment que les jeunes d'aujourd'hui, votre génération, vous êtes vraiment très engagés. Enfin, je pense que c'est pas qu'un sentiment. Enfin, on le sait, on voit beaucoup de choses qui se montent spontanément par les jeunes. Par exemple, je pense aux associations Lazare ou l'association pour l'amitié, des jeunes professionnels qui se mettent à vivre en petite communauté avec des gens qui étaient à la rue. Voilà, c'est vraiment des choses qui sont très très belles. Et puis il y a aussi dans Paris une quantité de maraudes liées à des paroisses avec des jeunes. Voilà. Et je pense que, enfin moi j'ai le sentiment que et ça m'intéresserait d'entendre ce que vous sentez aussi, que avec tout ce que la société vit, le monde même avec toutes ces migrations. Et voilà, ces flots migratoires qui arrivent en Europe, on est tous sensibles, voilà, à sa manière, à ça. Et les jeunes en sont particulièrement sensibles. Moi, j'ai entendu deux jeunes différentes qui m'ont raconté, alors qu'elles étaient jeunes infirmières, elles sont allées à Calais dans la jungle parce qu'elles voulaient le voir. Et elles sont allées vivre 3 semaines ou 3 mois à Calais et à vivre. Dans des choses qui étaient absolument pas organisées pour des gens qui venaient d'ailleurs. Et donc, enfin, il y a vraiment quelque chose je sens une sensibilité vraiment très présente et plus que ma génération, si je me sens pas très vieille, mais quand même, il y a quelques années d'écart et qui fait que voilà, enfin, il y a quelque chose. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il y a beaucoup plus de jeunes qu'avant qui partent faire des expériences à l'étranger, dans des pays en voie de développement. Et il y a vraiment ce désir d'aller rencontrer ces situations de pauvreté. Et ces jeunes reviennent transformés, bien sûr, mais ils ont, enfin, c'est beaucoup plus à la mode, entre guillemets, qu'avant. Voilà. Et ça dit quelque chose des jeunes d'aujourd'hui.
Bah oui, vous avez parlé de beaucoup de choses. C'est vrai que je crois qu'on peut être touché aujourd'hui par on peut être indigné par pas mal de choses et que il y a tellement d'associations aussi en France. Je crois qu'on est pas mal en fait au niveau de notre réseau associatif en France. Il y a beaucoup d'associations. On peut toujours trouver une façon de s'engager par rapport à ce qui nous touche personnellement, que ce soit l'écologie. Vous en avez parlé un petit peu parce que oui, c'est quand même notre avenir et ça nous touche personnellement. Ou que ce soit ces jeunes venus d'ailleurs qui arrivent comme ça en masse. Et ouais, c'est vrai qu'il y a un peu une mode du voyage humanitaire. D'ailleurs, des fois, je me dis qu'il faut s'en méfier. Il y a plein de dérives un peu de ce genre de pratique. Mais ouais, enfin pour revenir à mon expérience, ça m'a vraiment transformée de partir même jusque 15 jours au Bangladesh. Et ouais, ça change complètement mon regard sur la pauvreté. Et en même temps, j'ai rencontré des gens qui finalement, en fait, tout le monde me dit mais tu as dû voir tellement de misère, et c'est pas ce que je ramène avec moi en fait. C'est plus comment les gens se battent, comment ils sont dignes. Et on se disait tout à l'heure, c'est des générations qui se sont toujours battues. Ils se sont battus pour leur indépendance, et puis aujourd'hui ils se battent pour des conditions de vie meilleures, bien que bon, elles s'améliorent depuis qu'ils sont indépendants, mais voilà, il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles il faut qu'ils travaillent. Et puis ils sont très très touchés par le réchauffement climatique, donc ça les handicape encore un peu plus. Et en même temps, ils ont une façon de toujours se battre qui moi me frappe. Et en fait, ils ont plein de trucs à nous apprendre. Enfin, je vois comment ils travaillent. En fait, c'est ce que nous, on essaie de faire au Secours catholique, j'ai l'impression. En fait, ce que nous, on essaie de faire, le pouvoir d'agir, dont je vous parlais tout à l'heure, en fait, eux, ils le font très, très bien parce qu'ils sont tellement sollicités que, voilà, Caritas est obligé d'expliquer qu'ils peuvent donner des aides que ponctuelles et qu'ils ne pourront pas revenir toutes les 5 minutes pour aider les gens. Donc peut-être qu'ils font des aides un petit peu plus conséquentes, mais ensuite, quand Caritas part, les gens sont complètement autonomes. Par exemple, s'ils installent un dispositif, donc je sais pas, admettons, ça peut être une pompe qui fonctionne avec des panneaux solaires pour irriguer leur culture, ils vont recevoir des formations vraiment pour savoir comment la machine fonctionne, Ils vont recevoir des formations aussi pour savoir comment cultiver. Et ça, en plus, ils se diffusent ces bonnes pratiques, en fait. Chaque communauté a un peu un leader communautaire qui va aller diffuser tout ce qu'on lui a appris, au final. Et ça, c'est ce qu'on essaie de faire. Et en fait, il y a plein de choses sur lesquelles on peut s'inspirer d'eux.